Laudetur Jesus Christus.
Une fin de campagne sous tension au Bénin. 5 millions d'électeurs élisent demain leur nouveau président. Le climat de contestation contre le président sortant et candidat Patrice Talon est lui très fort. Deux personnes sont décédées cette semaine lors des manifestations de l'opposition. Nous irons à Cotonou, la capitale. 18 candidats, aucun favori, si ce n'est le vote blanc ou nul. Le Pérou vote aussi demain une présidentielle et des législatives dans un contexte sanitaire inquiétant. 4 des candidats sont d'ailleurs positifs au Covid. Nous ferons le point à Lima. Également dans ce journal, un peu de cité phocéenne dans la ville éternelle. Le pape François a reçu hier, pendant près d'une heure, Monseigneur Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille. Un échange fraternel, une réflexion ensemble sur la théologie de la Méditerranée. Vous entendrez Monseigneur Aveline à notre micro. Et puis dans notre dossier focus sur la Jordanie, le royaume hachémite célèbre demain ses 100 ans. Un centenaire chahuté par les dissensions au sein de la monarchie qui s'affiche depuis une semaine dans le pays. Pourtant, pôle de stabilité dans un Moyen-Orient en crise.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour, la tension monte d'un cran au Bénin. Demain, dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, 5 millions d'électeurs sont appelés à voter pour la présidentielle. Or, la campagne s'éclôt dans la violence. Deux personnes sont mortes cette semaine lors de la dispersion de manifestants à balles réelles dans le centre du pays. Et jusqu'hier soir, dernier jour de campagne, dans les rues de Cotonou, l'on pouvait entendre les partisans de Patrice Talon. Le président sortant brigue donc un deuxième mandat dans cette atmosphère de contestation. À Cotonou, Ngarling Lopi.
Musique, drapeau et char à l'effigie du président sortant Patrice Talon. À 30 minutes du centre-ville de Cotonou, Calavi vit au rythme des dernières heures de campagne. Ici, les militants se sont rassemblés pour écouter le chef de l'État. Pour eux, aucun doute, Patrice Talon sera réélu.
Il arrange le pays, développe le pays. Il améliore nos conditions de vie, donc on voit que ce mandat doit être une continuité. Donc on est derrière le duo Talon-Talata.
Patrice Talon a fait beaucoup de choses au Bénin. C'est pourquoi moi je suis derrière lui.
Mais à quelques pas de ce meeting, l'enthousiasme pour cette élection n'est pas le même. Car depuis mardi soir, au nord et dans le centre du Bénin, des manifestants protestent contre la tenue en l'état de l'élection présidentielle. Ils réclament le départ de Patrice Talon. Au moins 2 personnes sont mortes dans la ville de Save, selon le maire. André Oukpé, jeune mécanicien, n'ira pas voter ce dimanche.
Nous observons déjà un peu partout dans les grandes villes du pays des violences et même des tueries. Alors je préfère rester chez moi le 11 avril parce que je ne sais pas ce qui va se passer.
Pour ce dernier jour avant le premier tour de l'élection présidentielle, armée et police républicaine devraient continuer d'occuper le terrain pour éviter de nouveaux incidents. Ndari Kaniglopi, pour Radio Vatican, Cotonou.
Le secrétaire général de l'ONU appelle, lui, toutes les parties béninoises à un scrutin transparent, crédible et pacifique. À Djibouti, aux confins de l'Afrique et de l'Arabie, le dirigeant sortant a été largement réélu hier. Ismaël Omar Guelleh mène le pays depuis 22 ans et a recueilli officiellement 98% des voix. Il va entamer son 5e mandat à 73 ans, théoriquement son dernier. Djibouti, ce territoire désertique qui accueille d'importantes bases militaires étrangères, américaines, françaises ou chinoises. Autre longévité, celle du président tchadien Idriss Déby, après 30 années au pouvoir, ainsi 6e mandat est assuré pour le maréchal président. Ses jours de présidentiel demain aussi au Tchad, où les manifestations d'opposition ont été systématiquement interdites depuis plusieurs mois. Au Canada, les libéraux du Premier ministre Justin Trudeau en congrès aujourd'hui. Une réunion tenue avant un possible scrutin anticipé à l'été ou l'automne. Au Canada, les gouvernements minoritaires ont en effet une espérance de vie estimée entre 18 et 24 mois en moyenne. Et côté sondage, ce sont les libéraux canadiens qui sont en tête pour l'instant dans les intentions de vote, avec 35% contre 28% des voix pour les conservateurs. Un week-end résolument électoral. Au Pérou se tiennent ce dimanche des élections présidentielles et des législatives. Dans ce pays très instable sur le plan politique, ces élections ne devraient pourtant rien changer. C'est surtout le contexte sanitaire qui inquiète. 5 candidats à la présidentielle ont d'ailleurs été testés positifs au Covid. À Lima, les précisions de Viloen Munoz-Boileau.
25 millions de Péruviens sont appelés à se rendre aux urnes demain pour élire un nouveau président et renouveler leur parlement. Et ce, alors que le Pérou traverse la phase la plus critique de la pandémie avec des records de décès liés au coronavirus qui a déjà coûté la vie à plus de 100 000 personnes au Pérou. Le nombre de nouvelles contaminations est lui aussi en forte hausse ces dernières semaines, notamment en raison de la présence accrue du variant brésilien. Le système de santé péruvien est donc à bout de souffle. Dans plusieurs régions du pays, il n'y a plus de lits en soins intensifs disponibles ni d'oxygène et les experts craignent un regain de l'épidémie d'ici 10 à 15 jours comme conséquence des réunions familiales du week-end de Pâques et des rassemblements liés aux élections. 5 des 18 candidats à la présidentielle ont d'ailleurs été testés positifs au coronavirus et l'un d'entre eux a même dû être hospitalisé. Pourtant, les autorités ont exclu de reporter le scrutin et ont annoncé des mesures sanitaires qui permettront aux électeurs d'aller voter, je cite, en toute sérénité, sans craindre de se contaminer. Le gouvernement a également rappelé que si le vote est obligatoire sous peine d'amende, il est facultatif pour les plus de 70 ans. Quant aux personnes contaminées ou présentant des symptômes du coronavirus, elles sont évidemment exemptées sur présentation d'un justificatif. Mais si l'on en croit de récents sondages, la crise sanitaire ne devrait avoir qu'un faible impact sur la participation au scrutin. 90% des électeurs affirment qu'ils iront bien voter ce dimanche. À Lima, Wilhelmine Munoz-Boileau pour Radio Vatican.
Le Conseil de sécurité de l'ONU sommait d'agir en Birmanie contre la junte, cri d'alarme lancé hier par des civils du pays et les militaires qui ont hier aussi une nouvelle fois refusé de recevoir l'émissaire onusien qui était en tournée en Asie. Un sommet d'urgence des pays d'Asie du Sud-Est sera consacré à la crise birmane le 20 avril prochain. Une amende géante infligée par la Chine à son grand groupe de commerce en ligne Alibaba, 18,2 milliards de dollars. Les autorités accusent le groupe de pratiques monopolistiques et le considèrent comme un défi à la sphère financière dominée par l'État dans le pays. Un échange seul à seul de près d'une heure hier entre l'archevêque de Marseille, Mgr Jean-Marc Aveline, et le pape François au Vatican. Fraternité, amitié, périphérie, piété populaire, la cité phocéenne porte en son sein nombre de qualités qui trouvent un écho certain chez le souverain pontife argentin, officiellement invité à s'y rendre. Nous avons rencontré Mgr Aveline juste après son audience avec le pape.
J'ai bien compris que la porte d'entrée pour cela, pour lui, c'est Marseille. C'est clair. Et on a discuté sur le sens que pourrait avoir une étape Marseille dans son long pèlerinage méditerranéen. Parce que quand même, depuis le début, en commençant par Lampedusa jusqu'à l'Irak, jusqu'à Our en Chaldée le mois dernier, il y a eu beaucoup d'étapes. Je pense à l'île de Lesbos, je pense à Rabat, je pense à Jérusalem, je pense à Tirana. Et on voit bien qu'il y a des accents à chaque fois particuliers, il y a des thèmes qui reviennent. Mais parmi les choses que je lui ai dites, il y a, bon, bien sûr, le fait que cette ville est peut-être l'une des dernières villes cosmopolites du pourtour méditerranéen. Autrefois, Alexandrie l'était, Istanbul l'était, Beyrouth l'était, mais aujourd'hui, ces villes-là sont beaucoup plus unifiées culturellement. Nous, Marseille, voilà, je lui ai décrit ce laboratoire impressionnant de présence musulmane, juive, arménienne, comorienne. Je lui ai aussi expliqué la grande disparité économique qui caractérise cette ville, des quartiers qui sont très riches et des quartiers qui sont très pauvres, et aussi la vitalité pastorale, missionnaire, tout ça, ça fait écho chez lui, ça fera son chemin.
Voilà, Mgr Aveline, un entretien à retrouver dans son intégralité sur vaticannews.va. Demain, le pape François célèbre une messe en la fête de la Divine Miséricorde pour la deuxième année consécutive. Ce sera à 10h30 en l'église Santo Spirito in Sassia de Rome, église dédiée à la sainte polonaise Sœur Faustine Kowalska. Une messe suivie bien sûr de la récitation du Regina Caeli, des célébrations retransmises en direct avec commentaires en français sur notre site. Le prince Philippe décédé hier à 99 ans, à Londres, Belfast, Édimbourg, Gibraltar, des salves seront tirées aujourd'hui à midi pour saluer l'époux de la reine Elisabeth, lui qui avait rencontré les quatre derniers papes. Écoutez cette réaction du cardinal Vincent Nichols, l'archevêque de Westminster.
The Duke of Edinburgh has led a most remarkable life.
Le duc d'Édimbourg nous laisse une vie remarquable pendant presque un siècle, et son peuple se souviendra de lui pour son rôle pendant la période de la guerre, comme de ses contributions plus récentes. On se rappellera d'une vie pleine d'éclats de lumière, de sa personnalité, de sa manière d'exprimer les choses. Il y a une grande effusion de gratitude dans le royaume pour sa loyauté, pour son sens joyeux du devoir. Il savait qu'il épouserait la reine, et il savait qu'il resterait toujours dans un rôle de soutien au second rang. Même s'il a beaucoup fait dans de nombreux domaines, son premier devoir, comme Sa Majesté l'avait rappelé lors de leur jubilé de diamant, était d'être son soutien constant, son roc, et c'est pour cela que nous remercions Dieu pour sa vie et pour ce qu'il nous a tous apporté.
Le cardinal Vincent Nicole s'interrogeait par Lydia O'Kane de la rédaction anglophone de Radio Vatican. Le royaume de Jordanie célèbre demain son centenaire. Ambiance un peu particulière, les dissensions font en effet rage au sein de la famille royale. Et samedi dernier, le prince Hamza, arrière-petit-fils du fondateur de la monarchie hachémite, a été assigné à résidence, accusé d'être impliqué dans un complot contre son pays, ce dont il se défend. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées depuis, et si sous la pression de la famille, le prince a promis de rester fidèle au roi Abdallah II, il a toutefois critiqué la mauvaise gestion du souverain pouvant conduire le pays à sa perte. Retour sur ce contexte fébrile et les dernières turbulences sociales du royaume hachémite avec l'analyse de Camille Abesca. Elle est doctorante aux séries de Sciences Po Paris.
Ce qu'on sait notamment, c'est qu'entre 15 et 20 personnes ont été arrêtées samedi et on connaît l'identité de deux personnalités importantes parmi les personnes arrêtées. Bassel Awadallah, qui est un proche du roi Abdallah II, qui est un ex-ministre des Finances, ex-chef de la cour royale, accusé de corruption, peu apprécié de la population, aussi parce qu'il est perçu comme un des fers de lance des politiques de privatisation dans le pays et qui est depuis quelques années consultant auprès de Mohammed bin Salman. Et deuxièmement, vous avez aussi Sharif Hassan, qui est lui un membre de la famille royale et un envoyé de la cour royale en Arabie Saoudite. Mais l'événement le plus marquant à côté de ces arrestations, c'est l'assignation à résidence du demi-frère du roi, l'ex-prince héritier Hamza bin Hussein, particulièrement aimé des Jordaniens. Et donc lui est accusé d'avoir élaboré un plan pour déstabiliser la sécurité et la stabilité de la Jordanie. Il affirme avoir été assigné à résidence parce qu'il avait participé à des réunions où les personnes présentes à la réunion critiquaient le roi et le gouvernement. Il affirme être victime de la répression du régime contre l'opposition politique et il dénonce justement dans sa vidéo l'intensification de cette répression qui empêche, selon ses mots, les citoyens d'exprimer leurs opinions. Finalement, on a très peu d'informations tangibles sur ce supposé complot.
Quel était le contexte politico-social jordanien juste avant ces événements?
Ces dernières années, vous avez vraiment eu toute une série de mobilisations qui ont donné à voir l'étendue de la contestation sociale et des critiques à l'égard du régime. Il y a par exemple les manifestations de 2018 contre le vote de la loi fiscale. Il y a eu ensuite la grève et les manifestations du syndicat des enseignants à partir de 2019, ou bien plus récemment, toutes les manifestations contre les mesures sanitaires ou celles organisées à la fin du mois de mars pour l'anniversaire des printemps arabes en Jordanie. Et là, les événements du week-end dernier, ils ont en un sens permis à la population de voir que les critiques pouvaient aussi venir du cœur même du pouvoir. Pour prendre un autre exemple, dans les manifestations qui ont eu lieu ces dernières semaines, c'était pas des manifestations d'une très grande ampleur. Il y a eu plusieurs dizaines de manifestants qui ont été arrêtés. Donc on est aussi dans ce climat d'une contestation sociale à laquelle on répond par la répression.
Oui, donc selon vous, les événements du week-end dernier peuvent ouvrir en quelque sorte une brèche dans l'opposition. Quels seraient les vrais risques d'une déstabilisation à moyen terme de ce royaume jordanien?
Pour l'instant, pour être honnête, si on regarde l'histoire de ces 30 dernières années, le régime a plutôt toujours su faire preuve d'une assez forte résilience face aux épisodes de crise et de contestation politique. Les événements des derniers jours vont avoir des effets qu'il est encore assez difficile d'évaluer à mes yeux. Cela va aussi sûrement entacher ou fragiliser l'image de stabilité de la Jordanie, notamment à l'international. Rien ne porte à croire que le royaume en sortira fragilisé ou particulièrement déstabilisé.
Quels soutiens régionaux a recueilli le royaume et que signifie-t-il ?
Le soutien de l'Arabie Saoudite a été immédiat. L'Arabie Saoudite tenait à nier toute responsabilité dans ce supposé complot. Et il y a même une délégation du ministère des Affaires étrangères saoudien qui s'est rendue à Amman dès samedi. Officiellement, vraiment des messages de soutien qui visaient à rappeler que la stabilité et la sécurité du royaume jordanien étaient liées à la stabilité de l'Arabie Saoudite.
Camille Abesca, doctorante au Centre d'études de recherches internationales de Sciences Po Paris, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. Ainsi s'achève cette édition. Merci beaucoup de votre écoute et fidélité quotidienne. Prochain journal à 13h en direct de Rome. En attendant, vous pouvez retrouver l'actualité pontificale, celle du Vatican, de l'Église dans le monde sur www.vaticannews.va ainsi que tous nos réseaux sociaux. Excellent samedi.